Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. FRB 2025-03-16A est à ce jour le sursaut radio rapide le plus brillant jamais détecté. Il se trouvait dans la galaxie NGC 4141 qui est située à une distance de seulement 40 mégaparsecs. Grâce à sa proximité et à son intensité, la collaboration canadienne SHIME, qui traque les FRB, les Fast Radio Bursts, depuis de nombreuses années, est parvenue à le localiser avec une précision de seulement 13 parsecs, et a donc pu étudier en détail l'environnement de cet événement pour tenter de comprendre la nature de son progéniteur. Une question qui reste ouverte aujourd'hui. L'étude est parue dans The Astrophysical Journal Letters. La localisation précise d'un petit nombre de sursauts radio rapides répétitifs par interférométrie à très longue base a permis des observations de suivi à multi-longueurs d'onde, révélant divers environnements locaux. Mais les FRB répétitifs ne représentent que 2 à 3% seulement des sources de FRB observées. C'est environ 100 sur un total d'environ 4000 FRB. Et il pourrait ne pas être représentatif de l'ensemble de la population. FRB 2025-03-16A fait partie des FRB uniques, qui n'ont encore jamais montré de nouveaux sursauts. Mais même sans sursauts radio supplémentaires, les radioastronomes de SHIME ont réussi à le localiser comme jamais auparavant, en exploitant les capacités VLBI du réseau SHIME Outrigger complet. Les chercheurs ont ensuite utilisé des observations optiques et radio pour imposer des contraintes précises sur l'émission transitoire qui est associée et les propriétés de son environnement local. Ils peuvent fixer une limite sur l'émission radio spatialement coïncidente qui s'avère être 100 fois inférieure à toute source radio persistante compacte connue associée à un FRB. Alors les études environnementales offrent une approche très importante pour déterminer si les FRB uniques et les FRB répétitifs proviennent de populations progénitrices distinctes ou non. Par exemple, des études à haute résolution des FRB répétitifs 2012-1102A et 2020-1124A révèlent qu'ils sont intégrés dans des régions de formation stellaire active, conformément au modèle qui attribue l'émission à une source jeune, comme un magnétar. Ça concorde avec les études sur la démographie de leur galaxie hôte, qui montrent que les FRB apparaissent principalement dans les galaxies à formation d'étoiles, justement. De plus, il a été montré qu'une fraction substantielle se trouve dans ou à proximité des bras spiraux de leur galaxie. Mais le nombre croissant de FRB localisés dans des environnements sans formation d'étoiles actives suggère que certains peuvent être formés par des canaux retardés. Par exemple, FRB 2018-0916B, le répéteur qui présente des phases actives périodiques, est situé légèrement décalé de 250 plus ou moins 190 parsecs de la zone de formation d'étoiles la plus proche. Et le FRB répétitif 2024-0209A a lui été localisé à la périphérie d'une galaxie quiescente avec un âge de population stellaire d'environ 11 giga-années. FRB 2020-0120E, le FRB extragalactique le plus proche connu, qui se trouve à 3,6 mégaparsecs, a été localisé dans un amas globulaire, vieux d'environ 9,2 giga-années, dans le halo de M81. FRB 2020-0120E, comme FRB 2024-0114A, qui est situé dans une galaxie satellite d'un système galactique plus grand, démontre que les propriétés de l'environnement local d'un FRB ne sont pas nécessairement corrélées avec les propriétés de la galaxie voisine la plus massive. La précision de la localisation des FRB, qu'ils soient répétitifs ou uniques, est donc cruciale pour mieux comprendre de quoi il peut s'agir. Le 16 mars 2025, peu après la mise en service de la dernière station Outrigger, Chime FRB a détecté son FRB extragalactique au rapport signal sur bruit le plus élevé jamais enregistré. C'était donc FRB 2025-03-16A. Ce sursaut n'était exceptionnel que par la proximité de sa source, représentant une luminosité FRB moyenne. Comme la source est proche et que les chercheurs canadiens ont capturé des données depuis les quatre sites de télescope, ils ont pu le localiser très précisément, à 68 millisecondes d'arc, ce qui représente une distance projetée de 13 parsecs seulement. En années-lumière, ça fait 42,4. Rappelons que la galaxie hôte de ce FRB, elle se situe à 40 mégaparsecs. C'est donc l'une des meilleures opportunités d'étudier l'environnement local d'un FRB unique. Connaissant la localisation, les astrophysiciens ont alors utilisé l'imageur Keck Cosmic Web, le KCWI, pour caractériser la densité du gaz, la métallicité, la nature de l'ionisation du gaz, l'extinction des poussières et le taux de formation d'étoiles, grâce au flux de raies d'émission. Ils ont également exploité la luminosité et la proximité exceptionnelle de cette source pour imposer des contraintes profondes à la répétition de FRB 2025-03-16A. Ils constatent qu'il est incompatible avec tous les répéteurs bien étudiés, compte tenu de la non-détection des sursauts à des énergies spectrales plus basses. Les chercheurs de Chime s'attendent à ce que cette source demeure la limite observationnelle de certitude quant au caractère non répétitif d'une source, compte tenu de la rareté des détections à un tel niveau au-dessus du seuil de fluence de Chime FRB. Selon eux, s'il existe une population distincte de FRB non répétitif, compte tenu de cette tension apparente avec la population de répéteurs connus, leur étude de FRB 2025-03-16A offrirait un aperçu unique de l'environnement local d'une telle source non répétitive. Des observations rapides de suivi avec les télescopes optiques MMT et Gemini ont ensuite permis d'exclure une émission transitoire supérieure à une magnitude de moins 8, 9 jours après l'événement. Les observations régulières de l'observatoire Kodanam et du KIT défavorisent quant à elles les transitoires optiques lumineux tels que des supernovas, que ce soit de type 1A ou de type 2, qui pouvaient être compatibles avec la localisation de FRB 2025-03-16A pendant près de 25 ans avant le sursaut radio. Et puis, les données du télescope KCWI ont révélé que FRB 2025-03-16A est décalé de 190, plus ou moins 20 parsecs par rapport au centre de la région de formation d'étoiles la plus proche. Les échelles de temps de scintillation et de diffusion observées placent en outre un écran de diffusion à environ 60 parsecs devant FRB 2025-03-16A. Les astrophysiciens suggèrent que cet écran de diffusion est probablement physiquement associé à la région de formation d'étoiles qui est observée par KCWI. Alors, le décalage observé de 190, plus ou moins 20, parsecs avec cette région de formation d'étoiles est similaire à celui d'un autre FRB, FRB 2018-09-16B, qui lui est décalé de 250 parsecs par rapport au centre d'un complexe de formation d'étoiles. Alors, en suivant la logique que Tendulkar et collaborateurs avaient développée en 2021 pour FRB 2018-09-16B, c'est-à-dire en supposant que le progéniteur de FRB 2025-03-16A se serait formé près du centre de la région de formation d'étoiles, on peut estimer l'âge minimum que devrait avoir la source du FRB compte tenu du décalage observé et de la vitesse de kick probable du progéniteur, étoile à neutrons. C'est particulièrement contraignant pour le scénario du jeune magnétar, dans lequel, si on suppose les vitesses typiques des magnétars et des pulsars de notre galaxie, c'est-à-dire entre 60 et 750 km par seconde, ça c'est vrai pour 90% des pulsars et des magnétars dans des systèmes binaires, et ben ça donnerait un âge compris entre 200 000 et 3 millions d'années pour la source, ce qui est bien plus long que les durées de vie actives typiques des magnétars dans notre galaxie. Alors cependant, en utilisant l'ajustement de Diesberg et Mandel de 2025 de la distribution des vitesses de kick pour les étoiles à neutrons isolées de moins de 10 méganées, et qui couvre une gamme de vitesses plus large que celle considérée par Tendulkar et collaborateurs, et en tenant compte des incertitudes dans le décalage qui est mesuré et les paramètres de meilleur ajustement, les chercheurs canadiens estiment une probabilité de 5% d'observer un tel décalage pour des âges de source inférieurs à 10 000 ans. C'est donc encore possible. Et ils ajoutent que cette légère tension entre les décalages de FRB 2025-03-16A et FRB 2018-09-16B et l'âge des jeunes magnétars peut encore être atténué si l'on suppose que l'étoile à neutrons ou magnétar est créée in situ via une étoile OB en fuite. Et oui, parce que d'autre part, Peter Blanchard et collaborateur, c'est-à-dire la collaboration SHIM également, qui ont analysé finement les populations stellaires dans la zone localisée grâce à l'imagerie proche infrarouge du télescope Webb, publient donc un article compagnon à celui-ci. Et ils ont trouvé des étoiles dont l'âge de population était similaire à celui de la région de formation d'étoiles colocalisée avec la localisation du FRB, ce qui indique que la population stellaire s'étend au-delà de la taille apparente de la région H2 d'hydrogène ionisé dans les images de KCWI. Les auteurs concluent qu'une étoile à neutrons aurait pu se former in situ et par conséquent, on ne pourrait pas imposer de contraintes significatives sur son âge en se basant sur le décalage observé par rapport au centre de la région de formation d'étoiles. En soi, l'absence de forte formation apparente d'étoiles à l'emplacement de FRB 2025-03-16A, couplée aux limites de la proximité du FRB avec les étoiles de masse supérieure à 20 masses solaires, aurait pu être interprétée comme étant une tension avec un objet compact jeune comme un magnétar, d'âge entre 10 et 100 méganées. Mais Blanchard et collaborateurs montrent que les emplacements des jeunes étoiles à proximité du FRB rendent les observations de FRB 2025-03-16A compatibles avec un objet compact formé in situ. FRB 2025-03-16A marque ainsi le début d'une ère de localisation de routine pour les FRB ponctuels à des échelles de dizaines de millisecondes d'arc, ce qui permettra des études à grande échelle de leurs environnements locaux. Et dans cette quête, SHIME sera bientôt secondé par d'autres radiotélescopes comme CORD, le Canadian Hydrogen Observatory and Radio Transient Detector, ou bien le DSA, le Deep Synoptic Array, de quoi révolutionner l'étude des FRB pour comprendre leurs multiples populations et puis peut-être dévoiler leur origine. L'article de la collaboration SHIME est paru dans The Astrophysical Journal Letters, le volume 989, daté du 21 août 2025, comme celui de Peter Blanchard et collaborateurs. Le premier s'intitule FRB 2025-03-16A, un sursaut radio unique, brillant et proche, localisé avec une précision de 13 parsecs. Et le second s'intitule Des observations par le télescope James Webb du FRB précisément localisé FRB 2025-03-16A. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel, et puis restez bien les pieds sur terre. Allez, salut !